On revient sur l'aspect plus scientifique maintenant que le côté politique a été largement appréhendé,
Oui, mais la
compris,
science, c'est de la
senti.
politique, hein. Ceux qui disent le contraire, c'est qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnait la science aujourd'hui. Mais oui. On nous dit souvent, moi je vais commencer par ça. On nous dit souvent la science est neutre. Mais la science n'est pas neutre. Mais moi, ce qui vous parle ce soir, je ne suis pas neutre et personne ne l'est. C'est pour ça que dans toutes mes conférences d'ailleurs, j'invite toujours les gens à aller écouter des scientifiques qui ne partagent pas mon point de vue. Mais je ne veux pas qu'on m'empêche de dire le mien. Sauf que j'aimerais que quand on va voir les autres scientifiques qui ne partagent pas mon point de vue, ils vous encouragent à venir m'écouter comme moi je vous encourage à aller les écouter. Mais ça, je suis à peu près tranquille. Parce qu'effectivement, la science n'est pas neutre. Dès lors que la science est peut-être neutre dans sa mission première, qui est d'acquérir et diffuser des connaissances. Mais dès lors que la science s'inscrit dans un modèle de société, elle répond à ce modèle de société. Et si on a des sous pour faire de la recherche là-dessus et pas là-dessus, c'est bien parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits en amont pour qu'on ait des sous ici et ici. Pourquoi l'INRA a beaucoup plus d'argent pour travailler sur les biotechnologies que pour travailler sur les alternatives agroécologiques? Ce n'est pas des choix politiques, ça? Hein, c'est comme quand vous voulez faire un débat sur les OGM dans une salle municipale, et puis qu'on vous dit non, on ne vous prête pas la salle parce que c'est politique. C'est sale, la politique. Comme si la construction de la salle, elle avait émergé du sol comme ça en arrosant avec deux arrosoirs. Ce n'est pas de la politique, la construction d'une salle. Les sous, ils viennent d'où? Ce n'est pas des choix politiques, mais tout est politique. Il faut arrêter avec ça. Donc bien sûr que c'est politique. Moi, je n'ai aucun problème, en tant que scientifique, à parler de manière très engagée, parce que je considère que c'est le rôle du scientifique de dire haut et fort quand il considère, par exemple, qu'on fait n'importe quoi au nom de la science, qui d'ailleurs n'est pas de la science, et c'est ce dont on va parler ce soir, les OGM agricoles, c'est de la technoscience. Ce n'est pas de la science. Et donc, je considère que c'est mon devoir de le dire. Après, on partage mon point de vue, on ne le partage pas, peu importe, on débat. Mais c'est mon devoir de le dire. Voilà, et j'en ai marre de ces situations où on nous dit combien de fois j'ai fait des débats où il y avait l'animateur, Christian Vélo, présenté comme l'anti-OGM de service, pas de problème sur les OGM agricoles, effectivement, je suis contre. Il y a d'autres OGM que j'utilise moi-même dans mon labo en tant que chercheur pour lesquels je ne suis pas forcément contre. Mais contre les OGM agricoles, oui, je l'assume. Et puis, mon contradicteur, qui est présenté comme le pro-OGM et qui s'en défend en disant « Ah non, non, moi je ne suis pas pro-OGM, je suis scientifique, je suis ni pour ni contre. » Coluche aurait ajouté bien au contraire. « Non, non, je suis ni pour ni contre, moi je suis scientifique. » Alors que c'est un véritable VRP des OGM. Et je pourrais en citer beaucoup comme ça. Tiens, l'ancien directeur du panel OGM de l'AFSA, cette fois-ci, à l'échelle nationale, avant que ce soit l'ANSES. L'AFSA, monsieur Philippe Joudrier. Hein, qui venait témoigner dans les procès de faucheurs d'OGM pour les semenciers. Moi, je témoignais pour les faucheurs. Donc, moi, j'avais un parti pris, mais lui, c'était un scientifique. Alors, ça, j'en ai marre de ça. J'en ai marre de ça. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, mais ce n'est pas parce qu'on est contre que notre valeur, que notre parole a moins de valeur que celui qui est pour, qui est tout aussi militant que moi. Et pour moi, militant, ce n'est pas un gros mot, c'est simplement mon bras gauche, et le scientifique, c'est le bras droit, ou le contraire, je m'en fous. Voilà. Donc, que ce soit, moi, maintenant que c'est dit, je vais pouvoir me lâcher. Donc, parce que jusqu'à présent, j'étais un petit peu, vous avez senti. Ouais. Donc voilà. Alors, la question des OGM, je vais faire le lien avec les lanceurs d'alerte, puisque moi-même, j'ai eu un certain nombre d'ennuis en tant que, pour avoir, disons, pris des positions publiques sur la question des OGM. Alors, il se trouve que je suis donc ce qu'on appelle un généticien moléculaire, comme l'a dit Ruth, c'est-à-dire la génétique moléculaire, c'est une discipline de la biologie qui fait appel à un certain nombre d'outils pour mener à bien nos problématiques de recherche. Tous les chercheurs ont besoin d'outils. Et parmi les outils que nous utilisons, il y a notamment ceux qui permettent, entre autres, de fabriquer des OGM. Donc, toutes les semaines, il y a parfois même, c'est presque tous les jours, que l'on fabrique dans les laboratoires, pas seulement moi, tous les collègues de ma discipline, des OGM qui sont des outils au service du chercheur pour essayer de comprendre le fonctionnement des gènes, le fonctionnement des protéines, les gènes étant des molécules contenues dans les chromosomes qui détiennent le secret de fabrication des protéines. Et donc, en étudiant les gènes, on identifie les protéines dont ils ont le secret, et les protéines sont un petit peu les acteurs de tous les processus biologiques qui ont lieu dans les usines cellulaires, hein, dans nos cellules qui constituent les organismes vivants. Et donc, pour étudier ça d'un point de vue fondamental, c'est-à-dire comprendre comment fonctionnent ces usines, comment identifier les chaînes de montage et de démontage dans les usines, identifier les ouvriers qui travaillent sur ces chaînes de montage, en l'occurrence les protéines, identifier les gènes qui détiennent le secret de fabrication de ces protéines, eh bien, on est amené à utiliser un certain nombre d'outils, parmi lesquels les OGM. Hein, par exemple, quand on identifie un gène et puis on veut savoir à quoi ça sert ce gène, eh bien, quel est son rôle? Alors souvent, un gène a multiples rôles, mais quand on en a trouvé un, on est tellement content qu'on dit on a le rôle du gène, hein, c'est très restrictif. En réalité, il y a toute une soupe de fonctions derrière un gène. Et comment on fait? Vous savez, on fait une approche qui est utilisée de manière générale en science. J'ouvre un capot de bagnole, je ne connais rien en mécanique, hein, je vois de la porcelaine blanche dans le moteur, et mon frère qui est mécanicien me dit « Christian, ça s'appelle des bougies ». Et moi, les bougies, ça me fait une belle jambe, je ne sais pas ce que c'est, les bougies. Hein. Eh bien, on va casser la bougie avec un marteau, la bagnole ne démarre plus, on déduit que la bougie est impliquée dans l'allumage. Hein. Et bien, en fait, on a la même démarche, on a un gène, on ne sait pas à quoi il sert, on le casse et on regarde les conséquences. Si on travaille chez un animal, par exemple, et que l'animal n'entend plus, on va dire « Tiens, j'ai peut-être touché un gène de l'audition ». S'il ne voit plus la vision, si la Société Générale ne fait plus faillite, tiens, ça doit être le gène du trader. Bon, vous voyez, c'est le principe. Donc, c'est effectivement donc, quelque chose qu'on utilise à tour de bras, et c'est parce que j'utilise cette technologie à tour de bras, qui est un outil intéressant au service du chercheur, qui a aussi des applications médicales fort intéressantes parfois. C'est par exemple avec la technologie OGM que l'on produit un certain nombre de médicaments qui sont des protéines, donc on ne sait pas fabriquer dans un tube à essai in vitro. Et donc, on doit faire appel au gène qui détient le secret de fabrication de cette protéine. Et par exemple, on va prendre le gène humain qui détient le secret de fabrication d'une protéine particulière que l'on pourrait utiliser comme médicament chez certaines personnes déficientes dans cette protéine. Et à ce moment-là, on va la faire fabriquer par des bactéries en mettant le gène humain dans la bactérie. Donc, la bactérie devient un OGM puisqu'on lui a mis un gène étranger dedans, etc. Et donc, qu'on appelle d'ailleurs un organisme transgénique parce qu'on lui a mis un gène étranger qu'on appelle un transgène, et la technique étant la transgénèse, qui est une des techniques qui conduit à des OGM. Donc, voilà, c'est vraiment des choses qui ont des applications diverses. Hein, et donc, évidemment, je suis utilisateur, encore une fois, de cette technologie. Et autant j'ai conscience que c'est un outil intéressant pour le chercheur avec des applications qui peuvent être intéressantes, etc., dans le domaine médical, par exemple, comme je viens de le dire, autant on a conscience, quand on fait des OGM tous les jours dans les labos, que c'est un outil qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'on a des tas d'effets collatéraux qu'on ne maîtrise pas. Et quand j'ai su qu'on allait mettre des organismes génétiquement modifiés entiers dans les champs et que ça allait donc finir dans les assiettes, évidemment, ça m'a énormément interpellé. Ça m'a interpellé et j'ai tenu à alerter en disant « Attention, c'est un outil sympathique, c'est un outil » parce que je voyais les gens qui militaient contre les OGM, qui parfois ignoraient qu'on faisait avec les OGM des choses intéressantes sur le domaine médical, que c'était un outil intéressant pour le chercheur, hein, et qui parfois, dans les débats, eh bien, se faisait contrer par un scientifique qui disait « Mais monsieur, vous êtes diabétique ?» La personne disait « Ça m'est arrivé, hein, concrètement. » C'était en 2001, un débat à Paris sur les OGM. J'étais dans la salle à votre place, puis il y avait trois personnes à la tribune, un journaliste, un scientifique et un agriculteur. L'agriculteur était contre les OGM, le scientifique était neutre, c'est forcé. L'agriculteur dit à un moment donné, ses critiques vis-à-vis des OGM, et le scientifique lui dit « Monsieur, êtes-vous diabétique ?» L'agriculteur dit non. Il dit « Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage, dans vos amis, votre famille, qui est diabétique ?» L'agriculteur dit oui. Le scientifique avait plus de chances de gagner qu'au loto. On connaît tous quelqu'un qui est diabétique. Eh bien, le scientifique lui répond « Sachez, monsieur, que s'il n'y avait pas les OGM, cette personne que vous connaissez aujourd'hui ne pourrait pas se soigner. » Parce qu'effectivement, l'insuline humaine est fabriquée par technologie OGM en mettant le gène humain dans des bactéries qui deviennent des usines à insuline, qui décodent le gène humain et qui fabriquent l'insuline humaine. Et elle est fabriquée comme ça depuis 1981. Et cette personne l'a découvert ce jour-là. Et du coup, ça s'est vu dans la salle qu'il ne savait pas qu'on faisait autre chose que des plantes agricoles transgéniques avec les OGM. Et il a été totalement discrédité. Et son discours dans la salle a été « on ne lui a plus fait confiance ». Et donc, bien sûr, les gens ont dit, si on fait des médicaments avec les OGM, c'est le progrès, c'est bien. Donc, les OGM, c'est bien, on n'en parle plus. Alors moi, j'étais dans la salle, ça m'a beaucoup énervé, comme monsieur était irrité tout à l'heure. J'ai attendu la fin au moment des questions et je suis intervenu. Mais ce n'est pas aussi facile que quand on est à la tribune. Alors j'ai dit, je vais à la tribune. C'est pour ça que, monsieur, je vous invite à vous faire inviter pour faire des conférences et avoir plus de temps. Voilà, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et je me suis dit, il faut absolument que j'apporte ma goutte d'eau pour déjà dire, ne mélangez pas tous les OGM. De quel OGM on parle? Parce que, en fonction des OGM dont on parle, les problèmes posés ne sont pas de même nature. Et j'ai voulu dire, oui, les OGM, ça peut être un outil intéressant en labo, etc., mais ça ne veut pas dire que c'est bien pour les champs et pour les assiettes. Parce que ce n'est pas la même chose. Dans un cas, l'OGM est un outil et en espace confiné. Dans l'autre cas, il n'est pas en espace confiné, il est en plein champ. Et il va finir donc dans les assiettes. Donc ça pose inévitablement des questions environnementales puisque nous sommes tous propriétaires d'un bien commun qui s'appelle l'environnement. Ça pose inévitablement des questions sanitaires parce que nous sommes tous des consommateurs, hein, et qui n'étaient pas posées ces questions, ou en tout cas pas de la même manière, avec les autres OGM utilisant l'espace confiné. voyez. Et puis, en plus, je le disais, l'OGM en espace confiné n'est qu'un outil. Ce que va chercher le patient à la pharmacie, ce n'est pas la bactérie génétiquement modifiée qui produit de l'insuline, mais l'insuline, le médicament fabriqué par OGM. Ça ne veut pas dire que c'est dénué de tout problème. Hein, mais c'est évalué au moins comme un médicament, qui ne sont pas toujours bien évalués, mais en tout cas beaucoup mieux que les OGM agricoles, on va le voir, il n'y a pas de mal. Et puis, ce n'est pas la même chose de manger une protéine fabriquée par un OGM que de manger l'OGM lui-même. Et donc, il y avait cette confusion, et donc je tenais à alerter là-dessus, à dire attention, autant ça peut être un outil intéressant pour nous, chercheurs, autant ça ne veut pas dire que cet OGM dans les champs est merveilleux, parce que ce n'est plus un outil, c'est l'organisme à part entière. Le maïs OGM a le même devenir que le maïs conventionnel. Il va être semé, cultivé, récolté de la même manière. Il va être mangé par les humains ou par les animaux exactement de la même manière. Et d'ailleurs, quand on va au supermarché pour chercher de la farine de maïs, le système de traçabilité actuel, c'est en train de changer, mais le système de traçabilité actuel ne nous permet pas de savoir si ça provient d'un maïs OGM ou d'un maïs conventionnel. Ça veut dire que de la graine jusqu'à l'assiette, les deux OGM ont exactement le même devenir sans qu'à aucun moment le citoyen, le consommateur ne puisse faire la différence. Or, pour faire des OGM toutes les semaines en labo, je sais à quel point il est irresponsable de mettre ces OGM dans les champs et dans les assiettes parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Or, ces OGM sont évalués sur un principe qui s'appelle l'équivalence en substance et qui revient à considérer qu'un OGM ne diffère de sa contrepartie conventionnelle, le maïs OGM et le maïs conventionnel, par exemple, que par la modification génétique qu'on a faite. C'est extrêmement réducteur. Et ça repose sur une vision totalement mécanistique du vivant qui nie toutes les interactions entre les gènes, qui nie toutes les interactions entre les protéines et toutes les conséquences que la modification génétique peut avoir sur l'organisme lui-même, la plante en l'occurrence, mais sur son interaction avec l'environnement, sur les répercussions dans la chaîne alimentaire, etc. etc. Donc ce principe d'équivalence en substance qui est inscrit dans le règlement intérieur même de la FDA, la Food and Drug Administration, l'organisation américaine qui légifère sur les médicaments et sur les nouveaux aliments. Eh bien, dans le règlement intérieur de la FDA, il est écrit dans la partie 9 concernant les nouveaux aliments que les constituants alimentaires d'un aliment issu d'OGM sont a priori les mêmes que ceux issus de la plante conventionnelle correspondante. Donc à partir du moment où c'est inscrit comme un principe, ça exclut la nécessité du contrôle et ça conduit inévitablement à une carence d'évaluation. Donc ça, moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, en tant que scientifique, je n'ai pas le droit de ne pas le dénoncer, de ne pas le dire, de ne pas alerter sur ce que ça implique en termes d'évaluation. Et puis, cerise sur le gâteau, ça a été dit par notre camarade lycéenne tout à l'heure, les OGM, bien qu'il y ait juste une toute petite erreur, mais je vais y venir, mais c'est pas méchant, les OGM agricoles sont pour l'essentiel des plantes pesticides. C'est quoi des plantes pesticides? D'abord, c'est quoi un pesticide? Je pense qu'ici, vous le savez tous, mais je le redis quand même. C'est le terme générique qui englobe insecticides, herbicides, fongicides, etc. etc. Et une plante pesticide est une plante qui a été génétiquement modifiée pour accumuler un pesticide. C'est-à-dire qu'elle a été génétiquement modifiée soit pour produire en permanence un insecticide et non pas un herbicide. Un insecticide, ce sont les fameuses plantes BT. On les appelle BT parce que le gène étranger qu'on a mis dedans provient d'une bactérie du sol qui s'appelle Bacille de Thuringe. Donc les initiales de la bactérie, c'est BT. Et du coup, la plante, on l'appelle plante BT. Et en fonction du gène BT qu'on a mis dans la plante va lutter contre tel ou tel insecte dont elle est normalement victime. D'accord ? Du coup, cette plante produit elle-même son insecticide et n'a plus besoin de personne pour lutter contre l'insecte dit ravageur. D'accord ? Donc, elle va accumuler cet insecticide dans ses cellules, dans ses tissus. Et puis, la deuxième catégorie, ce que vous avez dit effectivement, c'est des plantes qui ont été génétiquement modifiées pour tolérer un herbicide. Et je vous encourage à remplacer le terme résistance par tolérance, parce qu'une plante qui résiste à un herbicide, c'est que l'herbicide ne pénètre même pas dedans. Ça lui fait ni chaud ni froid. Mais là, c'est une plante qui le tolère. C'est-à-dire que l'herbicide pénètre dedans, mais la modification génétique fait qu'il ne peut plus la tuer. Mais l'herbicide est dans la plante, il la tolère. Et donc, évidemment, ça veut dire que les humains, les animaux qui vont manger cette plante vont être confrontés à l'herbicide qui s'y est accumulé, parce qu'elle est tolérante à cet herbicide, et si on l'a fait tolérer à cet herbicide, c'est pour arroser la culture avec l'herbicide, évidemment, pour tuer les dites mauvaises herbes, qui est un terme que je n'aime pas, mais disons les plantes adventices, et ne pas tuer la plante d'intérêt. D'accord ? Donc, elle va être exposée à l'herbicide en question. Elle n'aurait jamais dû l'être, puisque si elle l'avait été, elle serait morte. Mais comme elle ne meurt plus, elle est exposée et elle accumule l'herbicide. Et donc les animaux qui mangent cette plante vont être confrontés, de même que les animaux qui mangent une plante BT vont être confrontés à l'insecticide produit par cette plante, parce qu'on lui a mis un gène de bactéries qui lui permet de produire cette protéine insecticide. D'accord ? Et donc ça, ça représente la quasi-totalité des OGM agricoles. Hein, c'est, les plantes BT, c'est 20%, celles qui produisent un insecticide. Les plantes qui tolèrent un herbicide, c'est 60%. Ça fait 80%. Et quand je dis que c'est la quasi-totalité, c'est-à-dire que c'est 99,99%. Alors, il manque 20%. C'est quoi les 20% qui manquent ? Ben, c'est ce qu'on appelle les OGM de deuxième, troisième et quatrième génération. Alors, ne vous méprenez pas. Hein. Deuxième, troisième, quatrième génération, ce n'est pas les plantes qui poussent dans le désert, ce n'est pas les plantes qui poussent dans les milieux salins, ce n'est pas les plantes qui fixent l'azote de l'air. Ça, c'est les grands trucs qu'on nous vend depuis 20 ans parce que c'est vendeur. Mais ça ne vient pas, et pour cause. Parce que faire résister une plante au manque d'eau, au stress hydrique, faire pousser une plante dans le milieu salin, d'ailleurs, il faut se poser la question pourquoi les milieux sont salins. C'est parce qu'on a mis des tas de merde dans le sol. Hein. Mais plutôt que de réparer, on dit c'est pas grave, on va faire des plantes qui poussent dans les milieux salins. C'est la fameuse fuite en avant, j'y reviendrai. Et puis, la fixation de l'azote de l'air, pareil, ça fait appel à une multitude de gènes dont on n'en connaît qu'un fifrelin. C'est des mécanismes extrêmement complexes. Et croire qu'on va résoudre le problème avec un gène, deux gènes, trois gènes dans la plante, c'est totalement illusoire. C'est ce que Jacques Testard appelle « si ma tante en avait ». Et effectivement, c'est une rubrique d'OGM particulière, « si ma tante en avait ». Ça fait rêver, c'est vendeur. Mais les OGM de deuxième, troisième, quatrième génération, c'est pas ça. C'est toujours des plantes pesticides, mais qui cumulent plusieurs caractères pesticides. Deuxième génération, ils produisent un insecticide, ils tolèrent un herbicide. Troisième génération, ils produisent deux insecticides, ils tolèrent un herbicide, ou ils produisent un insecticide, ils tolèrent deux herbicides. Et quatrième génération, c'est ceux qui font plus que trois caractères pesticides cumulés, comme le maïs Smartstax qui vient d'être autorisé au Canada, qui produit six insecticides et qui tolère deux herbicides, le Roundup et le Liberty. On n'arrête pas le progrès. Hein. Voilà, on en est là. Et bien sûr, la moindre des choses serait que ces plantes OGM, puisque j'en étais sur l'évaluation, soient évaluées comme des pesticides, puisque les animaux qui les mangent sont confrontés aux pesticides, etc., et que les humains qui mangent les animaux qui ont mangé ces plantes vont peut-être être confrontés aux pesticides ou aux produits dérivés du pesticide selon le devenir de ces pesticides dans la chaîne alimentaire. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas du tout la même directive européenne qui encadre l'évaluation des pesticides et l'évaluation des plantes pesticides. Dans un cas, pour les pesticides, c'est une directive qui date de 1991, 91-414, et dans le cas des plantes OGM, c'est une directive qui date de 2001, la directive 2001-18, qui a été transcrite en droit français en 2008. Eh bien, l'une directive, celle sur les pesticides, dit que tout pesticide pour être autorisé dans la chaîne alimentaire doit subir des évaluations pendant 3 mois sur 3 espèces animales différentes, dont le rat et la souris, le troisième n'étant pas un rongeur, plus des tests à 2 ans sur le rat, en plus des tests à 3 mois. Parce que 2 ans, c'est la durée de vie d'un rat en moyenne, et donc ça permet de voir les effets tout au long de la vie, ce qu'on appelle les effets chroniques, alors qu'à 3 mois, on voit essentiellement les effets aigus. Alors je ne dis pas que c'est bien pour les pesticides. C'est loin d'être le cas, parce que la plupart des pesticides, d'abord, sont des perturbateurs endocriniens, donc la moindre des choses, c'est-à-dire qu'ils perturbent les voies hormonales sexuelles, donc la moindre des choses serait de faire des tests sur plusieurs générations et d'analyser les petits sur plusieurs générations. Ce n'est pas le cas. Et puis en plus, la plupart des pesticides sont évalués sur leur principe actif et pas sur la formule commerciale. Par exemple, le Roundup, ce qui a été évalué, c'est le glyphosate qui est le principe actif. Mais le glyphosate ne pénètre pas dans la plante tout seul, il n'est même pas herbicide. Et il ne pénètre pas non plus dans les cellules animales. Mais quand vous prenez la formule commerciale, le Roundup, ah là, ça pénètre. D'accord ? Ça tue toutes les plantes. Et ça ne tue pas que les plantes, mais les plantes, ça les tue tout de suite. Mais ça a été démontré depuis, ça a des effets dramatiques sur les cellules embryonnaires, sur les cellules de cordon ombilical, sur les cellules d'oursin, c'est les études faites par un collègue du CNRS de Roscoff, qui utilise beaucoup l'oursin là-bas comme modèle d'étude et qui est un très bon modèle pour étudier le cycle cellulaire, c'est-à-dire le rythme de division des cellules, qui lorsqu'il est perturbé conduit à une multiplication anarchique des cellules, c'est-à-dire un cancer. Et donc il a étudié les effets du Roundup et montré que ça perturbait la division cellulaire, etc. Donc, mais le glyphosate, non. Et c'est le glyphosate qui est évalué. Donc c'est pour ça que Monsanto vous dit vous pouvez en boire. Je ne vous conseille pas quand même, mais voilà. Donc je ne dis pas que c'est bien pour les pesticides, mais ça a au moins le mérite d'être encadré par une directive européenne qui dit ne faites pas moins que 3 mois sur 3 espèces animales et 2 ans sur le rat. Dans le cas des plantes pesticides, que dit la directive 2018 ? Elle ne dit pas que ça ne doit pas être évalué, mais elle ne dit pas en quoi doit consister l'évaluation. C'est à l'appréciation des comités d'évaluation. Et par exemple, l'Agence européenne de sécurité alimentaire dit que ce n'est pas la peine d'évaluer les OGM de deuxième génération, ceux qui produisent un insecticide et qui tolèrent un herbicide. C'est pas la peine. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat d'un croisement entre deux OGM de première. C'est-à-dire un OGM qui produisait un insecticide et un OGM qui tolérait un herbicide. On a croisé, on a récupéré un petit qui faisait les deux. Et c'est pas la peine de l'évaluer puisqu'on a évalué les parents. Très mal, on va le voir, puisque seulement 3 mois. Mais on a évalué les parents, donc pas la peine d'évaluer le petit. C'est-à-dire qu'ils font abstraction de quelque chose que vous connaissez sans doute très bien, monsieur, qui est l'effet cocktail ou l'effet synergique. C'est-à-dire que l'effet cocktail, vous prenez une molécule A qui a des effets A, une molécule B qui a des effets B, vous mélangez les deux molécules, vous pouvez avoir des effets supérieurs à la somme algébrique de A et B, ou inférieurs d'ailleurs. Mais vous pouvez avoir des effets supérieurs. C'est pour ça que quand vous prenez un médicament, il est toujours dit sur la notice, si vous en prenez d'autres, signalez-le à votre pharmacien ou à votre médecin, parce qu'il pourrait y avoir des effets antagonistes, des effets cocktails. Et bien là, l'EFSA dit, on a un 4-4 qui a le contrôle technique, on a un gamin de 10 ans qui travaille bien à l'école, qui est poli, qui dit bonjour madame, au revoir monsieur. Donc si on met le gamin de 10 ans au volant du 4-4, ça ne présente pas de danger particulier. Voilà, c'est ça que nous dit l'EFSA en refusant des tests à 3 mois sur les OGM de deuxième génération. Ça, c'est l'EFSA qui le dit, je suis désolé. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est contesté par toute une frange de la communauté scientifique, mais qui n'est pas représentée à l'EFSA. Et donc, on est dans cette situation de carence et d'opacité d'évaluation, où bien sûr, on passe systématiquement à côté des éventuels effets chroniques. Alors, voilà pourquoi, cette histoire un petit peu longue peut-être, j'ai tenu à alerter. Ça m'a coûté un certain nombre de problèmes. Ça m'a coûté un certain nombre de problèmes, mais je ne suis pas le seul. Tous les scientifiques, en France, en Europe, dans le monde, qui ont pris des positions, mais pas seulement sur les OGM, mais je vais parler des OGM parce que je connais bien le sujet, qui ont pris des positions sur les OGM qui ne font pas une bonne presse aux OGM, ou qui ont publié des résultats scientifiques dont les résultats ne sont pas encourageants pour l'innocuité sanitaire et environnementale des OGM, à défaut de démontrer la dangerosité, en tout cas remettre en cause l'innocuité sanitaire et environnementale sur la base des études à 3 mois sur lesquelles s'appuie l'EFSA, eh bien, toutes ces personnes ont subi des pressions. Toutes, sans exception. C'est Gilles-Éric Serralini en France, ça a été moi-même. Moi, on m'a reproché de prendre des positions publiques à la télévision en apparaissant avec la filiation professionnelle, donc d'impliquer mon institut. Mais évidemment, si je donne mon affiliation professionnelle, ce n'est pas pour impliquer mon institut, c'est pour justifier de mes compétences à parler du sujet. La télé, ça n'intéresse pas que Christian Vélo, citoyen d'Île-de-France, vienne parler des OGM. C'est que Christian Vélo, généticien moléculaire, vienne. Et généticien moléculaire où ? Ben à l'université, à l'Institut de génétique microbiologie, à l'époque. Et donc, mon institut n'avait pas apprécié ça. Comme si les gens de France Télécom, quand ils dénoncent les suicides, il y a marqué France Télécom ou Orange en bas, c'est comme si la direction de France Télécom disait eh « ben non, il a parlé au nom de France Télécom ». Je ne pense pas que les directeurs de France Télécom tiennent le même discours. C'est complètement crétin. Et vous voyez, et moi, quand je vais témoigner en plus dans les procès, c'est Christian Vélo qui parle, ce n'est pas mon institut, même si je dis que je suis chercheur à l'université Paris-Sud, etc. Voilà, et donc j'ai eu tout un tas de pressions matérielles, morales, etc. Et Sciences Citoyennes, donc, que je remercie 1000 fois, a fait un travail extraordinaire à l'époque pour me soutenir. Pour soutenir, c'était la même époque, Pierre Ménéton qui dénonçait les problèmes, les conséquences cardiaques d'un SXL dans la nourriture, et ce qui lui a valu un procès en diffamation par les Salines de France, qu'il a gagné. Il a été soutenu par Sciences Citoyennes également, et Véronique Lapides, qui est cette femme qui avait dénoncé les problèmes de cancer d'enfants dans une école de Vincennes construite sur un ancien site de Kodak. Voilà, donc voilà un petit peu dans quel contexte on se place. Et évidemment, je le disais, dans un contexte où la science est de plus en plus financée pour des raisons de manque de moyens, de manque de moyens parce qu'il y a une déresponsabilisation, encore une fois, progressive, des pouvoirs publics dans le financement de la recherche publique, qui est de plus en plus financé par des intérêts mercantiles à court terme, bien sûr, ça crée ce type de dérapage. Et notamment, dans le problème des OGM, je vous ai parlé là des OGM, mais quand les OGM dont je vous ai parlé sont essentiellement des plantes transgéniques, c'est-à-dire des plantes qu'on a génétiquement modifiées en leur mettant un gène étranger, un gène qui provient d'une autre espèce, gène de bactéries dans le maïs, etc. Donc des plantes qui résultent d'une technique qui s'appelle la transgénèse, organismes transgéniques, qui sont des OGM. Mais tous les OGM ne sont pas transgéniques. Il y a des OGM que vous avez obtenus autrement, par d'autres techniques. Par exemple, la mutagenèse, qui est une technique qui consiste à modifier chimiquement les gènes sans mettre des gènes étrangers dans l'organisme. Vous avez la fusion cellulaire, vous avez plein d'autres techniques, il y en a 10. Et aujourd'hui, on voit apparaître des plantes pesticides, donc exactement le même résultat que celle obtenue par la transgénèse, des plantes qui tolèrent un herbicide, notamment du tournesol muté, que l'on peut arroser avec des sulfonylurées. Et il ne meurt plus parce qu'on l'a rendu tolérant au sulfonylurée, mais on nous dit que ce n'est pas un OGM parce qu'il n'est pas transgénique. Oui, il n'est pas transgénique, on n'a pas mis de gène étranger, mais on l'a obtenu par mutagenèse. Vous voyez ? Et donc, on est dans une situation extrêmement vicieuse parce que cet OGM est bien reconnu techniquement comme un OGM dans la directive européenne 2018, mais pas juridiquement. C'est-à-dire qu'il sort du champ d'application de la directive européenne. Et comme il sort du champ d'application de la directive européenne, eh bien, il ne subit aucun test. Alors déjà que les plantes transgéniques sont très mal évaluées, on vient de le voir, mais alors les plantes mutées, par exemple, les plantes pesticides qui résultent, qui sont des OGM qui résultent de la mutagénèse, eh bien, ne sont pas évaluées du tout, alors que c'est le même problème. Donc on est évidemment dans une situation extrêmement vicieuse. Et ça, c'est lié à quoi ? Ben, je disais, c'est lié à cette dérive de la recherche financée par l'industrie, qui n'est pas de la science, qui sacrifie la science sur l'autel des intérêts financiers, mais qui se réfugie derrière la science lorsque ses propres intérêts sont en danger, en disant « Mais enfin, c'est fou qu'ils vont faucher les OGM, qui sont des anti-sciences, qui anéantissent des années de travail. » Mais ce n'est pas de la science, c'est de l'innovation. Et l'innovation, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, bien sûr. Je suis moi-même content d'avoir un antalgique quand j'ai une crise dedans. C'est de l'innovation, bien sûr. Simplement, l'innovation dépend du ministère de la Recherche, d'ailleurs, et la recherche dépend du, l'innovation dépend du ministère de l'Industrie et la recherche dépend du ministère de la Recherche. Donc déjà, ce n'est pas du tout la même chose, même s'il y a une volonté de fusionner les deux, et on voit bien pourquoi. Mais on nous fait croire que c'est de la recherche, que c'est de la science. Or, pourquoi on arrive à cette dérive ? Eh bien, parce que, évidemment, l'industrie qui finance la recherche, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de retours sur investissement. Et si possible, des retours sur investissement rapides. Et comment elle protège le fruit de son activité pour assurer ses retours sur investissement ? En mettant des brevets. Mais lorsque l'activité s'appelle la biologie, le brevet s'appelle un brevet sur le vivant. Or, de quel droit breveter le vivant ? Le vivant n'a pas été inventé par l'homme. L'homme n'est qu'une composante du vivant. Et le vivant existait bien avant l'homme. De quel droit breveter le vivant ? Eh bien, en travaillant sur les molécules considérées comme les chefs d'orchestre du vivant, c'est-à-dire les gènes. Parce que vous avez sans doute remarqué que les gènes, on essaie de nous inculquer que nous sommes exclusivement à l'image de nos gènes. Que les gènes sont les molécules chefs d'orchestre du vivant. On n'arrête pas de nous parler de ça. Hein, on a entendu parler, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps, c'était un peu plus de 5 ans, puisqu'on a fêté il n'y a pas longtemps le départ du petit, mais c'était dans une campagne électorale de 2007, présidentielle. On a entendu parler du gène de la pédophilie, du gène de l'homosexualité, du gène de la délinquance, comme quoi on pouvait détecter un futur délinquant au berceau. C'est dommage, on n'a pas trouvé le gène du trader ou du parachute doré, ça éviterait certaines crises. Mais le gène de la connerie, on doit savoir où le trouver. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que, bien sûr, c'est grave d'un point de vue sociétal, parce que ça conduit à une dérive, qui est la dérive eugénique. Hein ? L'eugénisme, que c'est le détournement de la biologie à des fins raciales, comme quoi il y aurait des peuples qui auraient des gènes supérieurs dont il faudrait favoriser la reproduction, et puis des peuples qui auraient des gènes inférieurs dont il faudrait limiter la descendance. Et au début du siècle dernier, au début du XXe siècle, tous les généticiens, tous les chercheurs, à quelques exceptions près, étaient eugénistes. Non pas qu'ils étaient tous fascistes ou racistes, ils étaient souvent totalement sincères. Ils étaient persuadés à l'époque qu'il y avait un gène pour tout. On parlait même du gène de la pauvreté. Pas de bol. Vous aviez le gène de la pauvreté, vous pouviez travailler plus pour gagner plus, ça ne marche pas. Vous avez le gène de la pauvreté. Hein ? Et puis, ils étaient souvent sincères parce qu'ils étaient souvent persuadés que c'était leur rôle de chercheurs et de généticiens de veiller à la bonne évolution de l'espèce humaine. Alors un siècle plus tard, on pourrait croire que c'est dans les livres d'histoire, pas du tout, je viens d'en parler, on nous en parle encore. J'ai entendu sur France Info, il n'y a pas longtemps, un matin, j'ai entendu parler du gène de l'intuition. Alors ça doit être un gène qui est porté sur un chromosome X, sur les femmes, puisque l'intuition est féminine, mais du gène de l'intuition. Alors déjà que l'intuition soit d'origine génétique, ce n'est pas prouvé, mais en plus, imaginez qu'il n'y a qu'un seul gène derrière le phénomène de l'intuition, si toutefois c'est d'origine génétique. Enfin, on entretient ça en permanence. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les gènes ne sont pour rien dans ce que nous sommes. Quand un enfant ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa ou à sa maman, bien sûr que les gènes parlent. Mais si vous prenez deux vrais jumeaux qui ont exactement les mêmes gènes et que pour une raison dramatique de l'histoire, vous êtes obligé à la naissance de les séparer, je ne sais pas si on le ferait d'ailleurs, mais les mettre dans deux familles d'accueil socialement, professionnellement différentes, ça donnerait deux adultes évidemment différents, même s'ils continuent à se ressembler physiquement comme deux gouttes d'eau. Parce que ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est toutes nos interactions avec nos parents, bien sûr, mais avec nos amis, avec tout ce qu'on a vécu pendant l'enfance. C'est ça aussi qui construit chaque individu. On est humanisable, on n'est pas humanisé. Pour une fois, je cite le généticien référent du journal de 20h, Axel Kahn, mais il ne dit pas que des conneries quand même. Donc, voilà. Et non, effectivement, il n'y a pas que les gènes qui sont à l'origine de ce que nous sommes. Hein, parce que voilà, quelqu'un qui grandit à Tchernobyl n'aura pas tout à fait la même espérance de vie que quelqu'un qui grandit à Trescléou, hein, ou à Pont-la-Grand. Voilà, donc j'ai étudié ma géographie. Et donc, voilà, évidemment, parce que l'environnement aussi a des effets sur nos propres gènes, d'ailleurs, etc., etc. Mais on entretient cette idée. Alors que quand on compare le génome du chimpanzé à celui de l'homme, il se ressemble à plus de 95%. Et la ressemblance en biologie traduit en général l'interfécondabilité. Ben, essayez de faire un gosse avec un chimpanzé. Vous allez vous faire griffer, c'est tout ce qui va arriver. C'est pas parce que les gènes se ressemblent qu'on est interfécondable, évidemment. Mais on entretient cette idée en permanence. Et ça, c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous travaillez sur les gènes, que vous travaillez sur le chef d'orchestre du vivant, vous changez la musique et vous changez la partition puisque vous touchez au chef d'orchestre. Et vous devenez propriétaire de la nouvelle musique et de la nouvelle partition. Et ce n'est pas un hasard s'il suffit de bidouiller un gène dans une plante pour être propriétaire non seulement du gène modifié, mais également de la plante entière. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'à travers toutes ces techniques où on essaie de nous vendre l'argument de la fin dans le monde, etc., alors qu'effectivement, on essaie, au prétexte de nourrir la planète, d'asservir les pays du Sud en plaçant leurs paysans sous la tutelle des fermes semencières à travers une stérilité juridique de la plante qui s'appelle le brevet. Et donc ça, c'est un problème qui est totalement sociétal. Ce n'est pas des techniciens, polytechniciens de l'EFSA qui doivent se prononcer sur ces conséquences des OGM, sur les conséquences sociétales, sur les conséquences que ça peut avoir que quelques firmes dans le monde s'approprient les semences de la planète entière. Ça doit être discuté par toute la société civile. Alors, je vais terminer, ou je prends la question tout de suite, comme vous voulez. Oui. Non, elles ne sont pas stériles. C'est une confusion qui vient du fait que Monsanto a voulu faire à un moment donné un maïs qui, en plus de sa stérilité juridique, qui est le brevet, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais bon, il y avait effectivement une stérilité biologique. C'est-à-dire qu'en plus du gène d'intérêt, du gène pesticide, ils avaient mis une construction génétique très compliquée qui rendait le maïs stérile à la seconde génération. Et dans l'argument de Monsanto, c'était de dire, ben, vous nous dites qu'il y a des risques de contamination par le pollen, ben, on va résoudre le problème, on va la rendre stérile, comme ça, hein, vous voyez, c'est la solution la plus simple. Hein, voilà, les maladies sont sexuellement transmissibles, pas de problème, on va faire des hommes stériles, il n'y aura pas de problème. Voilà, et donc, ou impuissants. Vous voyez, c'est une réflexion scientifique qui est très profonde, vous ne vous rendez pas compte. Et donc, ils ont fait ce maïs doublement stérile, juridiquement et biologiquement. Sauf que ça a fait un tollé, parce que bien sûr, là, ils n'ont pas été très doués. Hein, les communicants de Monsanto, ils l'ont appelé Terminator, le maïs. Alors, ce n'est pas eux qui l'ont appelé Terminator. Oui, c'est vrai, oui, ouais, ça a été repris. Ouais, ouais. Et donc, voilà, donc, toujours est-il que ça a fait un tollé et c'est tombé dans les oubliettes, sauf que, il y a aujourd'hui tout un tas de plantes génétiquement modifiées qui ne sont pas encore commercialisées, mais qui sont pour lesquelles il y a des dépôts de brevets et qui sont stériles à la seconde génération. Alors, on ne sait pas à qui elles sont destinées, du moins, on a quelques petits soupçons. On a quelques petits soupçons, c'est que ce soit destiné pour les pays du Sud. Parce que dans les pays du Nord, notamment en Amérique centrale, en Amérique du Nord, eh bien, il y a ce qu'on appelle la police des gènes, hein, que Monsanto paye, qui sont des personnes que Monsanto paye en présence d'huissiers qui vont faire des prélèvements dans les champs des agriculteurs pour s'assurer que l'agriculteur n'a pas replanté une partie des semences l'année suivante, puisque lorsqu'il achète des semences OGM, il signe un contrat dans lequel il s'engage à ne pas replanter une partie de ses semences, c'est-à-dire à ne pas faire son métier de paysan, pour pouvoir les racheter tous les ans. Et donc, ils ont des contrôles, ils ont un système de contrôle qui s'appelle la police des gènes, qui est aux États-Unis, il y a eu plein de reportages là-dessus. Et Percy Schmeiser, qui est un agriculteur canadien qui a été victime de contamination par du colza de son voisin, qui lui n'était pas un bio, hein, Percy Schmeiser c'était un intensif de colza, mais il a été contaminé par du colza OGM de son voisin. Et avant qu'il ait pu porter plainte pour contamination, il a été attaqué pour violation de brevet par Monsanto. Et il y a laissé sa chemise. Mais maintenant, il fait des conférences dans le monde entier sur les OGM, et comme quoi ça a du bon, mais toujours est-il que, évidemment, dans les pays du Sud, vous ne pouvez pas imaginer mettre derrière chaque petit agriculteur un contrôle d'huissier, etc. Et donc, on imagine que le meilleur moyen, ce serait de faire des plantes qui sont aussi stériles. Bon, là, je suis peut-être dans le procès d'intention. En tout cas, on est en droit de se poser à qui seront destinées ces plantes, parce que ça existe, mais ça ne s'appelle plus Terminator, elle s'appelle GERT, qui est l'acronyme anglais, qui est très compliqué, qui veut dire, qui veut dire que les plantes sont stériles à la seconde génération. Voilà, donc, mais elles ne le sont pas actuellement. Alors, je disais donc, je vais terminer, que, évidemment, tout ça nous est présenté comme de la science, ce n'est pas de la science. c'est de la technoscience. Aujourd'hui, en biologie, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, on ne cherche plus à comprendre le vivant, on cherche à le maîtriser. Alors, bien sûr, c'est conditionné par des lobbies, des intérêts financiers, je viens d'en parler, mais pas seulement. Il y a aussi un lobby scientiste. Un lobby scientiste qui consiste à penser que tout ce qui sort d'un laboratoire est forcément bon pour l'humanité, parce que c'est le produit d'une activité de recherche. Quand Claude Allègre dit du bien des OGM, je ne pense pas qu'il ait des intérêts financiers avec qui que ce soit, en tout cas pas pour les OGM. Je pense qu'il est profondément convaincu que la science peut tout résoudre. Et on est dans cette vision fantasmatique du progrès. Cette vision fantasmatique du progrès qui confond modernité et progrès. Vous voyez, vous avez la bombe à neutrons, c'est peut-être moderne. Pour moi, ce ne sera jamais le progrès. Mais on confond les deux, cette vision fantasmatique du progrès, cette vision fantasmatique du progrès qui place l'agriculture, enfin qui, l'agriculture et la technoscience dans cette politique de fuite en avant depuis des décennies. Regarde, moi je suis fils de paysan. Mon papa faisait du bio sans le savoir à l'époque. C'était une toute petite ferme. Il avait 10 vaches et quelques veaux sous la mer. Et il faisait un petit peu de produisait du lait et puis faisait quelques veaux. Et il produisait des céréales pour ses besoins propres. Et évidemment, moi, quand j'étais gamin, on avait des toutes petites parcelles. C'était jamais la même culture dans la même parcelle. On fait ce qu'on appelle des rotations, qui est la base de l'agronomie. Jamais faire les mêmes cultures dans les mêmes parcelles des années consécutives, à l'exception de la vigne, évidemment, parce que tout simplement, vous entretenez des parasites d'une année sur l'autre et vous finissez par développer, par amplifier les insectes qui pondent, etc., qui se reproduisent. Donc vous avez effectivement cette chose à éviter, c'est de faire des rotations, ce que faisaient tous les paysans à l'époque, ils faisaient leur métier de paysan. Et puis on avait des haies, et on avait déjà de la polyculture, pas seulement une plante, et la polyculture dégage des cocktails d'arômes qui chassent naturellement les prédateurs. Et puis on avait des haies, et dans les haies, il y avait des oiseaux. Et les oiseaux sont des prédateurs d'insectes aussi. Puis un jour, il y a eu le remembrement. Le remembrement, j'étais gamin, mais je m'en souviens, on a dit, voilà, tous les haies, là, on vire tout ça. Le beau chêne au milieu, il faut l'enlever, parce qu'il ne faut pas que le tracteur et la moissonneuse-batteuse perdent de l'argent et du temps à contourner le chêne. Et puis c'est quelques mètres carrés en moins de céréales. Donc on va tout raser. On va faire une grande surface et de la monoculture. Et tous les ans, dans les mêmes années, tous les ans dans les mêmes parcelles pendant plusieurs années consécutives. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver ? Des nuages d'insectes. Plus de polyculture, plus de cocktails d'arômes, et des monocultures qui attirent les papillons comme des phares allumés dans la nuit. Et là, on nous a dit, vous inquiétez pas, on a la solution. La science a toujours la solution, les insecticides. Et on a mis des insecticides. C'était la science, c'était le progrès. Et puis, c'était la même époque où on nous disait, on va faire de la chimie. Les paysans allaient faire de la chimie. Et vous savez, les paysans ont toujours été victimes d'un discrédit. Ils ont toujours été ringardisés. En tant que fils de paysan, je le sais, on était à l'école les fils de Pecknot. J'ai passé 5 ans aux États-Unis à Dallas, où j'ai côtoyé un peu les paysans. C'était des rednecks. C'est toujours des rednecks, des gens qui ont le cou rouge parce qu'ils sont pliés dans les champs. C'est péjoratif. Le monde paysan a toujours été ringardisé. Pour sortir de cette ringardise, il fallait saisir le progrès. Le progrès. Et ce progrès ne pouvait sortir que de laboratoires de gens en blouse blanche. Et quand on leur a sorti les engrais chimiques qu'on a appelés NPK, azote, phosphore, potassium, c'était on fait de la chimie, on est dans le progrès. Et donc je comprends aujourd'hui que beaucoup d'agriculteurs aient peur de refuser les OGM parce qu'ils ont peur de rater une marche du progrès. Et donc c'est toute cette vision fantasmatique du progrès qu'il faut changer. Alors on nous a dit les insecticides, c'est le progrès. Pas de problème, on va mettre des insecticides et le problème des insectes n'en sera plus un. Et puis 30 ans après, ceux-là même qui nous ont vanté le mérite des insecticides nous disent « Ah oui, mais les insecticides, c'est pas bien. Vaut mieux tard que jamais. » Et on nous dit « Mais on a la solution, les OGM. » Quelle solution ? Les plantes produisent leurs propres insecticides qu'elles relarguent dans le sol par les racines, sans connaître les effets sur la rhizosphère, sur les microbes du sol qui vivent au contact des racines, sur les champignons microscopiques, les bactéries, sans connaître les effets sur les vers de terre, sans connaître les effets sur les insectes dits utiles, les coccinelles, les abeilles, etc. Il est où le progrès ? Et on est dans cette fuite en avant en permanence. Et la solution, évidemment, elle est de s'attaquer à des alternatives. Mais des alternatives qui englobent le tout. Parce que, soyons pas trop pessimistes, je vais quand même terminer par une bonne note. Vous savez que Monsanto voulait qu'en 2000, il y ait 50% des surfaces cultivées en Europe qui soient des OGM. Nous sommes en 2011, 2012, et nous avons moins de 1% de surface cultivée en OGM. Chez nous, en Europe, je parle de l'Europe. Donc le pot de terre a résisté contre le pot de fer, et c'est bien sûr le résultat d'une fantastique convergence de tous les îlots de résistance que sont les citoyens isolés ou organisés en association, en ONG, que sont des chercheurs, que sont des juristes, que sont des politiques dont on ne parle jamais, ou on en parle pour dire qu'ils ne font pas leur boulot, mais il y a aussi des politiques qui font bien leur boulot, qui sont des politiques de l'ombre, qui ne font pas la couverture de Paris Match habillé en Lagerfeld, qui sont des politiques dont on ne parle pas, mais qui font un fantastique travail, que ce soit au Parlement européen, dans les parlements nationaux, dans les collectivités territoriales. Et c'est cette convergence qui a permis d'en arriver là. Le problème, c'est que si on doit dépenser la même énergie, en plus ça ne veut pas dire que c'est gagné, hein, parce que les OGM peuvent revenir à tout moment, et puis il y en a plein qui sont autorisés aujourd'hui. À défaut d'être autorisés à la culture, ils sont autorisés à la commercialisation, donc ils nous arrivent sous forme de produits importés, comme ça a été très bien dit, pour nourrir les animaux dans le petit cours qu'on a vu, enfin dans le cours qu'on a vu tout à l'heure. Et effectivement, c'est loin d'être résolu. Mais même si on continue à gagner, c'est-à-dire à ne pas avoir de culture OGM, de ces OGM-là, de plantes transgéniques, je vous ai dit, il y a toutes les autres plantes qui arrivent, les plantes mutées, etc., etc. Et si on veut arriver à combattre avec la même efficacité toutes ces technologies, on ne s'en sortira pas parce que c'est les mêmes qui sont sur le front et on va s'épuiser. Et donc, il faut s'attaquer au dénominateur commun. L'un des dénominateurs communs, c'est le brevet. S'attaquer à ce problème de brevet. Et il y a des gens qui se penchent sur cet aspect de la chose. Comment contrer l'autorisation de breveter le vivant, de confisquer aux paysans son outil de travail, sa semence, de l'interdire d'exercer son métier de paysan. Et puis un autre, il y en a beaucoup d'autres, hein, des dénominateurs communs, mais je vais citer celui qui m'intéresse beaucoup, qui est en tant que chercheur et en tant que membre de la science citoyenne, qui est la recherche participative. La recherche participative, c'est quoi ? Bien, on n'arrête pas de mettre de l'argent public, même s'il n'y en a pas assez, comme je le disais, consacré à la recherche publique. Le peu d'argent de la recherche publique qui provient des deniers publics et consacré à la recherche, il va à quelle recherche ? À une recherche en partenariat avec le privé. C'est toujours, tous les projets nationaux et européens sont des projets où il faut être en collaboration avec une boîte privée, on a beaucoup plus de chances de décrocher le projet, etc., etc. Et puis même sur les collectivités territoriales, la plupart des projets sont des projets pour soutenir le tissu économique local. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas consacrer une partie de cet argent public, au moins une partie, à une recherche d'intérêt commun, à une recherche au service du bien commun. Et c'est ce que Science Citoyenne, encore une fois, a réussi à initier avec la mise en place de la recherche participative. La recherche participative, elle est née au Canada. Ça s'appelait les projets ARUC, Alliance Recherche... Donc c'était une alliance de recherche, un partenariat de recherche entre les chercheurs institutionnels et la société civile. Donc les associations, les ONG, etc. Et Science Citoyenne s'est inspirée de ça et a réussi à faire mettre en place, ça a été porté à l'époque par le groupe vert de la région Île-de-France, sur la région Île-de-France, des projets de recherche participative que l'on appelle PICRI, partenariat entre institutions et citoyens pour la recherche et l'innovation. Donc c'est une recherche où le représentant de la société civile n'est pas un simple spectateur dans un comité de suivi où il va assister à la mise en place d'une technologie qu'on va lui vendre et dont il n'a que faire. Non, il est partenaire de la recherche, parce que comment concevoir mener à bien un projet de recherche agronomique, par exemple, sans interagir étroitement avec ceux-là même qui sont les inventeurs de l'agriculture, qui ne sont pas les chercheurs ni même les agronomes, mais qui sont les paysans. Comment concevoir mener à bien un projet de recherche sans agronomique, sans les paysans, qui sont les premiers généticiens du monde, ne l'oublions pas. Toute la diversité de semences qui existent sur la planète, c'est le résultat de ce qu'on appelle la sélection massale. C'est-à-dire quand les paysans repéraient une plante qui avait une propriété qui l'intéressait et une autre plante naturellement interfécondable avec la première qui avait une autre propriété qui l'intéressait, ils croisaient toutes les deux, ils récupéraient un descendant qui avait les deux propriétés. Mais ça se faisait non pas de manière robotique, ça se faisait sur des énormes échelles de temps et ça produit toutes les variétés, toute la diversité des semences parfaitement adaptées à leur environnement. Aujourd'hui, on fait des plantes standardisées et on adapte l'environnement à la plante. Quand on fait une plante OGM qui tolère un herbicide, pour qu'elle manifeste son avantage sélectif, il faut lui mettre de l'herbicide. Donc on standardise l'environnement et on adapte l'environnement à la plante. Et comme les plantes sont standardisées, les environnements sont standardisés. Une perte de biodiversité considérable. Alors que la sélection massale, c'est tout le contraire. C'est adapter les multiples plantes aux multiples niches écologiques. Et c'est ça qu'a fait effectivement qu'ont fait les paysans. Et donc la recherche participative, c'est de dire donnez-nous notre savoir, nous on peut peut-être vous apporter des connaissances que vous n'avez pas sur le fonctionnement physiologique de la plante, etc., mais on ne saura jamais apporter, avoir les connaissances que vous avez, vous, de praticiens de l'agriculture. Et donc ce sont ces deux compétences réunies qui peuvent permettre effectivement de développer une agriculture alternative et de mettre la recherche au service des citoyens. Et pour vous donner un exemple concret, en 2007, ça c'est depuis 2005 qu'existent les PICRI sur la région Île-de-France. En 2007, il y a un projet PICRI qui a été financé par la région Île-de-France sur plusieurs années, qui consiste à sélectionner des semences paysannes de blé pour développer le pain bio en Île-de-France. Et ça, c'est en partenariat entre des chercheuses de l'INRA, je dis des chercheuses parce que ce sont des femmes qui sont à la tête de ces labos, et ce sont d'ailleurs des femmes qui sont membres de Sciences Citoyennes, et des paysans du réseau Semences Paysannes, et également la FNAB, la Fédération... mais c'est pas la FNAB, c'est... Une troisième association qui en fait partie. Mais essentiellement, les paysans du réseau Semences Paysannes, en partenariat avec des chercheurs de l'INRA. Voilà, moi-même, j'ai aujourd'hui... J'en suis très content, un projet PICRI financé par la région Île-de-France pour étudier l'équivalence en substance, le fameux principe sur lequel s'appuie l'évaluation des OGM, qui n'a jamais été démontré, qui est donc édicté en principe, et pour le but, pour essayer de démontrer que ce principe n'est pas une vérité scientifique. Et donc, c'est un partenariat donc, entre des chercheurs institutionnels dont je fais partie, et également Génération Future, l'association Génération Future, que vous connaissez sans doute, hein, et qui s'intéresse beaucoup aux problèmes d'évaluation ou en tout cas de déficit d'évaluation des produits phytosanitaires pour l'autorisation de mise sur le marché. Voilà. Et donc, c'est un véritable partenariat entre chercheurs institutionnels et la société civile. Et ça, c'est un véritable moyen de remettre la science au service du bien commun pour avoir une science véritablement transparente, une science citoyenne, une science démocratique, et remettre enfin la science au service du bien commun, puisque la science, c'est un bien commun. Et ça, c'est de la science. C'est de la recherche dans le but d'une utilité sociale, notamment de développer des stratégies agricoles qui sont respectueuses des pratiques du paysan et respectueuses de l'environnement. Or, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de s'empresser de dire au paysan d'oublier son savoir et d'acheter la technologie. Voilà. Donc, c'est pour cette science transparente, citoyenne et démocratique que Science Citoyenne se bat, et que je me bats au sein de Sciences Citoyennes, et pour permettre justement que l'on retrouve un petit peu de sérénité dans la science. Et c'est un des moyens, c'est un des angles d'attaque pour empêcher que ces technologies viennent supprimer le paysan et viennent nous imposer leur diktat. Je vous remercie.